Bon, la parole est à Teresa.
On n'aura pas épuisé le sujet, on a compris qu'on pouvait rester encore à discuter d'un sujet aussi vaste où chaque question en amène une autre avec une complexité qui s'enrichit d'elle-même. Qui ouvre des questions universelles.
Oui, donc,
c'est vraiment c'est
l'humain.
On parle de nous.
Je voudrais dire, je suis tout à fait d'accord avec madame pour pouvoir en lien avec les familles et m'occuper d'une petite fille. C'est vrai que cette différence de culture me paraît, elle est certaine, elle est réelle. Elle peut poser problème. Elle peut poser problème. Et on se pose aussi le problème de notre responsabilité. Comment on fait connaître à l'autre personne la culture française, parce qu'il faudra bien à un moment donné qu'elle participe aussi, qu'elle la comprenne aussi. Je pense au problème de violence verbale, qui pour nous en France est un délit, pour la personne qui a peut-être connu autre chose, ça n'est absolument pas un délit. Je pense aux jouets, où j'ai pu constater que les jouets apportés disparaissaient et il n'y en avait jamais. Je pense à l'école, et que peut-on faire par rapport à l'école, on aimerait savoir, mais quelle intrusion, quelle limite on peut se poser comme personne extérieure dans l'intervention auprès d'une famille qui a sa propre vie, qui la vit comme elle peut. Cette culture, c'est aussi lorsque l'enfant doit sortir, on lui propose des sorties en milieu extérieur. Ah, mais non, c'est trop risqué parce que ça ne devait pas se faire, parce qu'on n'a pas confiance, parce que. Enfin, plusieurs fois, j'ai rencontré une difficulté. Alors, on ne peut pas imposer. Il faut simplement dire, peut-être qu'en France, ici, on fait autrement, on fait différemment, mais bien sûr, on respecte. Vous trouvez la limite.
Oui, c'est... ouvrir un espace de peut-être un espace de dialogue, de négociation, de médiation, peut-être oui. Ça dont vous parlez là.
Par exemple, pour les jouets, les jouets qui disparaissent, etc., pouvoir se saisir justement de situations comme ça, un peu bizarres, nous paraissent bizarres, pour comprendre ce qui se passe, ce qui pouvait se passer avant, hein, dans la culture, la mère, le père, enfin, je sais pas qui vous avez affaire, savoir comment dans leur enfance aussi ça se passait, enfin, etc. Donc, pour en même temps soi-même saisir comment, c'est toujours pareil, hein, eux, le sens qu'ils y donnent, les représentations qu'ils ont. Alors, et autre chose sur laquelle je veux insister, c'est qu'à la fois, et votre expérience le montre, on a affaire à des personnes qui sont porteuses de traits culturels qui, dans certains cas, déroutent, mais en même temps, donc, on va parler de la culture d'origine des personnes, j'en ai parlé. Mais en même temps, bien faire attention, c'est-à-dire qu'on est en situation migratoire. Une situation migratoire induit que la culture, même si elle est réactualisée ici même dans un appartement, c'est pas la culture d'une société, d'une grande collectivité. La culture, d'abord, toute culture aussi, alors, premier point, toute culture est réinterprétée par chacun. Comme tout à l'heure, on disait, on est aussi porteur d'une culture, etc. Mais chacun, on réinterprète notre culture, on la bricole un peu en fonction de nos tendances psychologiques, si on est plus ou moins anxieux, si on est sûr, etc. On a nos bricolages subjectifs par rapport à ce donné culturel. Donc, ça déjà. Donc, ces personnes aussi, elles sont dans leur bricolage par rapport à leur donné culturel initial. En plus, ils ont vécu la migration. Donc là, il y a une expérience de rupture, de changement, de modification qui vient apporter un mauvais coup, j'allais dire, en quelque sorte, à la culture. Là, il peut y avoir repli sur la culture aussi, hein, par attitude défensive. Mais en même temps, une culture dans une famille, elle a du sens parce que c'est relié par un groupe, c'est relié par tout le monde. Donc, en même temps, il y a une fragilité de ces cultures. Moi, j'appelle ça, dans les situations migratoires, j'appelle ça les cultures édulcorées. Ce sont pas vraiment... C'est de ça, mais c'est pas vraiment de ça. Donc, l'important, je crois qu'il... ce qu'on disait là, c'est en profiter pour établir, pour marquer peut-être sa surprise, son rejet, en disant, tiens, maman, ça fait... Et puis voilà, et puis... et vous, comment, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous faisiez dans votre enfance, et puis quand les enfants, s'ils ont eu des enfants donc, avant, qu'est-ce que vous faisiez? Enfin bon, c'est au contraire permettre aux personnes à la fois de faire lien aussi dans leur tête entre le avant et le maintenant, c'est très important. Avec donc après expliquer aussi quel sens ça prend pour nous ici. Voilà, comme vous le disiez, pardon.
Bon, on en sort. Ma question porte un peu plus sur le communautarisme, vous l'avez juste un petit peu effleuré, donc j'ai bien entendu que ça faisait partie des facteurs évidemment qui permettaient la bonne intégration, effectivement, pour entre les personnes, comme vous disiez, quand on parle étranger en général, de 4 jours on se retrouve avec des Français, on est content d'être un peu moins, mais bon, je veux dire, c'est normal. Mais comment ensuite ça peut se passer dans l'intégration? C'est vrai que bon, c'est un sujet éminemment politique, hein, on parle de n'importe quoi dessus. Vous, c'est quoi un petit peu ce que vous préconisez, parce qu'il faut effectivement que les enfants notamment puissent aussi avoir un mélange avec, je suppose, le pays d'accueil, les populations d'accueil. Alors comment est-ce qu'on pourrait équilibrer tout ça pour qu'après ils puissent avoir des repères de leur culture, on va dire, entre guillemets, de base ou ancienne, et finalement aussi de nouveaux repères peut-être.
Alors, s'il est des lieux, en effet, où les personnes, je l'avais tout à l'heure, j'ai l'impression que ces personnes se ressourcent en quelque sorte dans ces lieux-là, c'est important. Alors, le problème, évidemment, si ces personnes ne font plus que ça, bon, c'est un peu difficile, on ne pourrait qu'à parler d'adaptation. Le problème, c'est s'il y a une diversité, s'il y a une diversification, si ces personnes rencontrent d'autres personnes ailleurs, etc. Si les structures associatives, nombre de fois, sont ouvertes aussi à d'autres. Parce que quand vous parlez de problèmes politiques, c'est quand même en 2000, que je ne me trompe pas de siècle, moi, en 2001, oui, l'autorisation aux étrangers a été donnée par l'État français pour la possibilité de s'associer, une association reconnue. Et ce moment a été un moment fort et important, justement, de reconnaissance donc, de groupe. Après, tout est dans cette capacité à rencontrer une diversité. Je pense que c'est ça. Parce que l'un n'exclut pas l'autre du tout. On peut être heureux d'entendre des gens qui parlent sa langue dans des échanges intenses dans un moment particulier, et puis après, partir faire autre chose. C'est... Voilà. Juste...
80.
En fait, je voudrais apporter juste une petite information par rapport à ce point, en donnant... un élément qui peut-être va apporter un complément sur le côté communautarisme. En fait, ce communautarisme qui permet effectivement de retourner vers sa culture, sa langue par moment, peut être perçu comme quelque chose aussi qui vient suppléer les carences de l'accueil, et à ce moment-là, on va se retrouver dans une situation politique qui va forcer, en fait, du côté de... On se regroupe autour d'une communauté au lieu de se retrouver autour de la langue, de la culture, ce qui est complètement différent. Enfin, il me semble qu'on pourrait avoir ce regard-là, Et en fait, c'est une défaillance de notre système d'accueil qui provoque un retour vers tout bruit.
Oui. Et dans les structures associatives, ce sont des lieux de solidarité. Oui, c'est extrêmement important. Et d'autant plus quand les gens arrivent, problème de langue, problème de comprendre quoi ce qui se passe, comment ça fonctionne, l'institution, les entre eux. C'est les compatriotes qui vont donner les clés à certains nombre de points. Et c'est le problème, comme vous dites, de la façon dont on accueille et qu'on reçoit de façon plus ou moins ouverte. Mais ça n'exclut pas, je crois, quand même non plus. Parce que...
Alors moi, je rebondis du coup sur la défaillance d'accueil. Cette défaillance aussi, elle est en train de ce que vous avez dit, le problème de la place de l'enfant et que l'enfant grandit trop vite. Moi, je le ressens, donc je travaille avec des demandeurs d'asile dans un abri de nuit. Et c'est vrai que cette place de l'enfant est très compliquée. Ils arrivent plus vite à parler français. Et du coup, c'est compliqué pour les familles de ne pas du coup, utiliser ce moyen de communication qu'ils ont par le biais des enfants. Et moi aussi, je le ressens parce que quand je vais voir les parents pour leur parler de quelque chose au niveau de leur dossier, au niveau de tout, et ils ont tendance à appeler les enfants pour qu'ils viennent traduire. Donc moi, je demande aux enfants de sortir, sauf que ces enfants-là, mais bien sûr, ils vont au rendez-vous préfecture, au rendez-vous médicaux. Et c'est vrai qu'il y a une défaillance, comme il le dit, hein, c'est-à-dire que cette défaillance-là, c'est parce que l'État met pas en place assez de traducteurs qui leur permet d'apporter à ces familles-là cet accueil nécessaire.
Un complément tout de suite.
Oui, sur cette question de la traduction, l'association Porte Ouverte a créé un petit réseau d'interprètes. Alors, toutes les langues dont on aurait besoin ne sont pas représentées malheureusement parce qu'il n'y a pas forcément des traducteurs présents au nombre suffisant sur le département, mais donc des interprètes qui peuvent intervenir, en particulier dans des relations avec l'école, pour éviter justement que ce soit les parents qui se retrouvent à faire l'interprétariat entre les parents et les enseignants. Donc s'il y a des enseignants ici dans la salle et qui n'auraient pas l'information, sachez-le. Donc il est possible de faire appel à l'association Porte Ouverte dans des financements qui viennent de l'État, de l'allocation familiale, etc. Et donc on essaie actuellement de développer l'action pour que ça puisse être aussi des interprétariats, par exemple dans le domaine de la santé, par exemple, quand une consultation médicale est nécessaire pour un enfant, c'est évident que le dialogue il doit se passer entre les parents et le professionnel de santé, et il doit y avoir compréhension mutuelle. Comme je suis très sensible à ce que vous disiez, c'est vraiment permettre aux parents d'être dans son rôle de parent. Et souvent, enfin, les enseignants qui ont fait appel à des interprètes se rendent compte que le dialogue il est complètement possible avec les parents et ça change beaucoup de choses, y compris dans le comportement de l'enfant, etc. C'était simplement et tout bêtement un obstacle de langue. Quoi. Donc, mais après, c'est vrai que c'est aussi à l'ensemble des institutions de se préoccuper de cette question de l'interprétariat. Et ce que je trouve très difficile, par contre, quant à ce qui me semble, pour avoir entendu des parents dans des travaux qu'on faisait pour essayer de voir les besoins en matière de soutien à la parentalité, c'est des parents étrangers qui nous disent « Mais ici, en fait, on n'a pas le droit de frapper son enfant, par exemple. Moi, dans ma culture, bah, on a appris à comment se comporter. On l'a appris parce que notre père ou notre mère pouvait mettre, alors, sans assommer leur enfant, bien entendu, puisqu'ils étaient encore là, ils étaient encore en vie. » Et voilà, c'est, bah, je ne sais pas si c'est une claque ou une fessée ou un petit coup qui fait qu'on comprend la limite. Et en fait, dans notre société, bah, on parle beaucoup des droits de l'enfant, etc. Donc c'est bien, mais c'est vrai qu'un enfant bah, va se plaindre peut-être à son instinct, maman l'a frappé, ça peut très vite prendre des grosses conséquences en matière de protection de l'enfance, etc. Et du coup, les parents savent et ils ne réussissent plus à poser leur autorité. Parce que pour eux, la façon dont ils ont appris, dont ils ont été éduqués et dont ils ont appris à éduquer, du coup, par transmission, ça peut passer par un coup. Voilà. Donc, et ça, c'est, je ne sais pas comment faire avec ça, on le constate, on se rend compte que c'est compliqué, mais concrètement.
Je tiens juste. Par exemple, vous donniez à la fin, là dans vous aussi, à propos des traducteurs dans les situations psychothérapeutiques, l'importance des traducteurs médiateurs, c'est pas seulement traducteurs, enfin, discuter plus longuement. Ensuite, sur certaines conduites éducatives parentales, alors, même si, comme vous dites, dans certaines sociétés, et chez nous jusqu'à récemment, en effet, les parents ont des méthodes coercitives plus fréquentes qu'ici, mais il faut quand même évaluer si l'enfant est durement frappé ou si simplement il fait de temps en temps une baffe parce que exactement ce qu'a dit le parent, voilà. Et ne pas être interventionniste à chaque propos de ce genre-là, parce que ça vient heurter nos nouvelles règles de vie, et à la fois quand même rester attentif.
Moi, je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur l'importance que les enfants gardent de la langue maternelle. Parce que dans la famille que j'accompagne, il y a quelque chose qui me frappe. Il y a un couple, qui a l'air ami, deux enfants de 6 et 4 ans, deux petits garçons. Et le petit garçon de 4 ans, il refuse, il rejette complètement sa langue maternelle. C'est-à-dire qu'il commence à parler bien le français, et il refuse de parler la langue de ses parents. Alors la mère parle bien le français, le père le parle très mal. Donc le père parle dans la langue maternelle, le petit répond en français, et ils ne se comprennent pas. Et c'est la mère qui fait la traduction. Je voudrais savoir si vous rencontrez ce genre de situation.
Et oui, après chaque enfant va aussi réagir par rapport à l'aîné, par rapport à ce qui est tout. C'est la question aussi de la place de chacun dans le monde familial. Que représente la langue aussi pour les parents, de quelle manière. Alors, dans nombre de cas, l'aîné va porter la langue, ou parfois un autre enfant de famille. Et en quelque sorte, les parents, dans la mesure où ils ont transmis la langue au moins à un des enfants, se sont affranchis de leur dette générationnelle, en quelque sorte. Hein. J'ai quand même transmis, donc je n'ai pas complètement coupé mes enfants de mes propres parents, de mes ascendants. Après, l'enfant qui réagit comme ça, oui, il peut y avoir des phases aussi réactives de l'enfant, affectives, voilà, c'est ça, dans la relation, soit à l'aîné, soit au rapport au père, soit, enfin, il y a quelque chose qui doit, nécessairement, puisqu'il y a la mère et le père n'ont pas la même réactivité à chacune des langues, donc inévitablement, l'enfant joue quelque chose là, à travers la langue, par la langue, regarde chacun des parents, c'est inutile. Après, c'est peut-être.
Est-ce que la mère parle sa langue maternelle?
Oui, elle parle des deux. Elle est à la maison, elle parle la langue maternelle.
Quelque chose entre les.
Oui, forcément quelque chose d'autre. Je ne sais pas si c'est au niveau de la famille, mais c'est une relation très différente.
Oui. Je me souviens d'une Sénégalaise qui me disait que son deuxième fils aussi, elle a deux fils, le premier parlait bien le peul, le deuxième dirait de me parler de bamboula. Refusait que sa mère me parle le peul. Je veux pas que tu me parles de bamboula. Et puis, bon, quelques années plus tard, ça, alors, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il y a, etc. Mais je pense que c'est une question de ce qui se passe dans les relations intrafamiliales, hein, la position du père, de la mère, d'abord dans leur propre échange aussi. Comment se fait-il que le père ne parle pas la langue française, etc. L'histoire personnelle de chacun, les résistances qu'il y a pu y avoir, faudrait, et par rapport à la langue, et par rapport à autre chose, parce que la langue traduit aussi les affects. Parce que la langue, bien sûr, c'est pas qu'un moyen technique, surtout pas, je pense, c'est quand même. Mais c'est surtout le porteur des affects et de la manière de pouvoir, moyen de véhicule de ce que l'on est dans la rencontre avec l'autre. Qu'est-ce qui se passe pour cet enfant?
Oui, à quoi il l'associe, comment il le vit, comment ça vibre en lui, enfin, aussi tout ça. Et voilà, et sans compter que c'est un objet de pouvoir. Vous disiez, ça renvoie à tout, enfin, quoi ce que vous disiez, de comment ça vibre en lui.
aussi, enfin, corporellement, dans les émotions, qu'est-ce qu'il ressent, et puis aussi là, toute la dimension de l'objet de pouvoir, quoi, enfin, que ça représente, le refus aussi d'y accéder, enfin, donc, ce qui peut rejoindre ce qui se passe dans la dynamique relationnelle. Quoi. Oui. Et puis là, en l'occurrence, il établit une relation spécifique avec sa mère, hein, et le père est quelque peu mis à côté.
Un âge évocateur.
Un âge, par hasard, 4 ans, voilà.
4 ans, je suis un peu libre. Mais par contre, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que si on est dans un contexte où les parents sont bien porteurs de leur identité d'origine, ça ne pose pas souci. Là où ça devient compliqué, c'est qu'effectivement, là, c'est l'enfant qui rejette la langue du père, qui campe sur la langue que maîtrise la mère, bon, c'est assez utile, comme ça va très bien. Sauf que dans ce contexte-là, ça peut devenir un peu plus compliqué. Parce que, effectivement, comme vous le disiez, ce père peut un petit peu déchoir de sa position d'autorité.
Ah, voilà.
Oui, et aussi, moi, ça posait la question de l'école. Parce que vous disiez, l'enfant dit il faut parler français. Et peut-être que, du coup, il y a un discours à l'école qui est de. Il faut absolument parler français, qui a été un peu intégré par l'enfant, qui revient en disant qu'il faut parler français.
Non, parce que les enseignants, ils insistent bien sur le fait qu'il faut parler la langue maternelle à la maison et le français à l'école. Mmh.
Mais du coup, peut-être qu'il y a une injonction, même si elle est dans ce sens-là d'une ouverture à la langue maternelle à la maison, mais du coup, peut-être que ça peut être entendu du coup, comme une prescription aussi.
Moi, j'avais demandé, ça fait un petit moment que donc je vais revenir en arrière sur le sujet de la culture. Et quand j'ai parlé d'intégration, il faudra bien qu'il s'intègre dans la culture française. Si j'ai bien compris, il a été dit à peu près quelque chose de ça, même si je caricature un peu. Moi, je pense que notre culture française, c'est une culture migratoire, une culture multiraciale. Et si on explique à ce. Il acceptera de rentrer dans cette culture, dans la culture de notre pays, si on lui dit en même temps ce qu'il va lui apporter à notre culture. Parce que c'est ça, c'est plus facile de donner que de recevoir, mais il n'y a pas assez de gens qui donnent, mais c'est plus facile, c'est beaucoup plus dur de recevoir, parce que si on ne fait que lui dire qu'il faut que tu t'adaptes à ça et ça, mais ce qu'il apporte lui, moi je pense que c'est très important de faire, et que ce soit pour la langue, bon, mon intervention, j'y ai pensé après, mais il faut appuyer sur le fait de ce qu'il peut apporter à notre culture et de la langue, pareil, de notre langue, c'est une langue vivante, il y a des choses qui peuvent changer dans notre langue par ce que ce gamin-là va apporter.
Et ce qui est vrai, enfin, au-delà de ça me fait penser à ce qui se rejoue souvent à l'adolescence, enfin, des fois d'une manière assez, enfin, parfois sur l'enregistre des passages à l'acte, de blessures aussi d'adolescents, d'avoir en tout cas intégré, ressenti l'image de parents disqualifiés, parce que peut-être aussi pas. Pour lesquels il n'y a pas eu d'espace de reconnaissance, en tout cas d'attention, de reconnaissance à qui ils étaient, ce qu'ils savaient faire. Enfin, on peut rapidement, c'est vrai, être dans des considérations. Alors, même si c'est doté de bonnes intentions, mais parfois trop rapidement victimaire aussi, et où il y a quelque chose qu'on peut rabattre un peu trop rapidement à l'égard des personnes, sans prendre en compte qu'il y a. Ces personnes, elles ont une histoire, un vécu, elles ont appris tout un tas de choses à l'école avant, elles savent faire plein de choses. Et ça, il n'y a pas toujours l'espace quand même, ne serait-ce que de le dire, et encore moins de l'exercer, mettre en exergue, le partager. Quoi. Et donc après, des fois, effectivement, sur l'adolescence, avec des figures parentales qui sont intériorisées comme étant comme ça, blessées, en tout cas, ou vécues comme ayant été un peu écrasées, ou... ça peut rebondir sur des passages à l'acte contre la figure d'autorité ici qui qui sont de la prédominance du corps, enfin, moins de majeur.
Alors, deux questions, et puis on sera obligé
de partir.
Est-ce que le problème que rencontrent justement les enfants issus d'autres cultures, nous, on le connaît ici depuis longtemps, avec la culture basque, la culture bretonne, la culture alsacienne, la culture corse, la culture occitane, il y a eu les mêmes problèmes, et on demande toujours à certaines personnes toujours de s'intégrer. Est-ce qu'ils ont besoin de vouloir s'intégrer? C'est tout.
Est-ce qu'ils ont? Je n'ai pas entendu.
On en parlait cet après-midi, oui.
J'ai pas compris, juste la fin de
que la. Par exemple, l'école républicaine française est construite sur les meurtres, les linguicides de toute la richesse. Une autre question, et puis après on vous laissera répondre. Alors, une autre. Avec le micro, là.
Oui, je trouve que c'est important ce que vous disiez, de ce que peuvent dire les parents, de ce qu'ils ont vécu, donc avec leur langue, effectivement, et parfois dire le. Donc, moi, pour les personnes que je reçois, souvent, on ne veut rien en dire, justement, parce que c'est douloureux. Alors, c'est difficile pour les parents de le transmettre, du coup, aux enfants. Et je trouve qu'il y a un très beau film qui a été projeté, je ne sais pas si c'est l'un qui l'ont vu au CAC la semaine dernière, je crois que c'était, ça s'appelle Une histoire de fou. Et je trouve que c'est très parlant par rapport à ça, c'est l'histoire d'une famille arménienne et le fils qui, à un moment donné, il est jeune adulte et il dit à ses parents, en se radicalisant, dans le terrorisme radical, il dit à ses parents, moi je veux justement, il revendique quelque chose de sa culture. Bon, mais parce que je crois qu'il y a cette question de comment ces parents peuvent transmettre quelque chose de leur douleur par rapport à leur vécu. Voilà, c'est ça qui serait compliqué, je pense.
Et
ce que vous disiez, d'ailleurs, vous l'avez bien dit aussi, ça se transmet avec les. Parfois c'est dit, mais parfois c'est pas dit non plus, et comme c'est justement qu'il y a les noms dits, c'est souvent compliqué.
Le mot de la fin, justement, c'est qu'en quelque sorte, me semble-t-il.
Je
vais
la
changer. Ça me. Moi, ça fait une éternité que je travaille sur des problématiques interculturelles, mais qu'en même temps, il y a beaucoup de résistance. Il y a beaucoup de résistance dans la société française, mais peut-être dans d'autres sociétés, pas celui unique, à se pencher sur les questions pour y réfléchir. L'idée étant souvent que, en effet, les migrants vont s'adapter, puis c'est à eux d'agir, et on va. Maintenant, il y a des tests en psychologie sociale pour voir le degré d'adaptation du migrant, bien, pas beaucoup, etc. Et alors qu'il faut toujours se poser la question que la situation migratoire implique deux protagonistes. Donc le migrant et celui qui le reçoit quand il le reçoit, celui qui est en face. Et c'est cette dynamique-là qu'il faut travailler. Et que le fameux vivre ensemble n'est pas si spontané et naturel que ça, ça vient comme ça, ça nous tournerait comme ça par hasard. C'est quelque chose, moi je suis convaincue, à laquelle il faut s'arrêter, comme on l'a fait ce soir, y avoir réfléchi, avoir étudié certains aspects, avoir fait des liens entre différentes situations. Enfin, il faut faire quelque chose pour pouvoir en tirer parti et pouvoir avancer, parce que c'est quelque chose de déroutant quand même. Et qu'il y a beaucoup de réactions humaines premières, simples, peut-être archaïques, de se méfier de ce qui est différent. Hein, et à préférer le entre-soi. Donc, tout un. Que le multiculturalisme s'impose à nous, en raison, je parlais des technologies tout à l'heure, je vous parlais d'autres façons donc, de bouger de par le monde. Mais en même temps, donc, le vivre nécessite aussi d'y réfléchir.